Le journal, voici Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Emmanuel Macron, début d'une visite d'État pour sceller un pacte fort avec New Delhi. Des contrats également attendus. Cyril Graziani suit pour nous cette visite. Une justice plus efficace, plus rapide. La grande réforme présentée hier par la garde des Sceaux. Une nouveauté, l'expérimentation du tribunal criminel à la place des assises. Dans ce journal, nous irons aussi à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Une maman a dû courir plusieurs centaines de mètres à travers les couloirs avec le corps de son bébé mort dans ses bras. Après cette édition, le journal des sports de Fabrice Rigobert au JO paralympique de Pyeongchang. 3 médailles pour la France, dont 2 en or. Et puis rugby cet après-midi, tournoi des 6 nations. France-Angleterre, c'est au Stade de France.
France Inter. Stéphane, Emmanuel Macron est donc en Inde.
Objectif, faire de l'Inde un partenaire clé, renforcer les relations économiques entre les deux pays. On attend bien sûr quelques contrats, une nouvelle commande pour les Rafales. Ce voyage est aussi l'occasion pour le président de la République de conforter sa relation avec le Premier ministre indien Narendra Modi, car les deux hommes entretiennent une relation personnelle de confiance. À New Delhi, Cyril Graziani.
Entre eux, c'est du sérieux. Hier, le Premier ministre indien s'est même déplacé au pied de l'avion présidentiel pour accueillir Emmanuel Macron. L'Élysée a tenu à préciser que cette attention était extrêmement rare. Sur 200 visites officielles, moins de 10 chefs d'État y ont eu droit. Plus fréquente, l'accolade franche et sincère offerte par Modi au chef de l'État. Ici, on appelle ça la hugplomatie, la diplomatie du câlin. Ce matin, les deux affichent la même entente. Emmanuel Macron a été accueilli avec des coups de canon traditionnels. Puis, nouvelle salve de compliments du président à l'égard de l'Inde, dont il veut faire un partenaire clé, en français, puis en anglais, histoire d'envoyer un message clair au deuxième pays le plus peuplé du monde et à sa jeunesse.
And I dream to have more and more.
En effet, le chef de l'État explique qu'il espère voir plus d'étudiants indiens venir en France, mais aussi des start-up, et il veut que la France devienne le principal partenaire de l'Inde en Europe. Place occupée aujourd'hui par la Grande-Bretagne, mais la France a des atouts dans sa manche, des bases stratégiques dans l'océan Indien et la perte d'influence des Britanniques après le Brexit. À New Delhi, Hélène Langlois, Cyril Graziani, France Inter.
Trois jours après les annonces d'Emmanuel Macron sur la réforme des peines, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet et Édouard Philippe ont dévoilé hier à Reims les axes de la réforme de la justice. Une nouveauté, l'expérimentation d'un tribunal criminel à la place des assises pour les crimes les moins graves. Il serait composé de 5 magistrats professionnels, plus de jury populaire donc. On y jugerait les crimes qui se trouvent en bas de l'échelle, punis de 15 à 20 ans maximum. Les meurtres et les assassinats resteraient jugés par les assises actuelles. L'objectif, c'est de désengorger les cours d'assises. Écoutez la réaction de Dominique Coujard. Il est ancien président de cour d'assises à Paris. Il a présidé des centaines de procès. Pour lui, cette réforme est une manière de pousser le citoyen hors des prétoires.
La justice criminelle, grâce à la présence du jury populaire, est une justice présentable et de bonne qualité. Et donc, si on supprime le jury pour 80% des affaires, on va se trouver comme dans n'importe quel tribunal correctionnel, soumis aux chiffres, à l'exigence d'une justice bâclée et de mauvaise qualité. Un procès d'assises, c'est quoi? C'est en moyenne 2 ou 3 jours d'audience et une décision immédiate. Un procès en correctionnel, c'est une demi-journée d'audience et un délibéré dans les 2 mois. Faites la comparaison. Donc si on décide d'accélérer de rythme en baissant la qualité, c'est vraiment un choix politique et très révélateur en réalité. En fait, c'est une vision que je trouve personnellement très technocratique de la justice. Nous, on va y perdre beaucoup parce qu'on est aussi un des fondements de la démocratie. Et ce fondement, il s'appuie sur la présence du citoyen pour les affaires les plus graves. Si on nous retire notre légitimité, c'est très très inquiétant. On pousse les jurés vers la sortie.
Propos recueillis par Corinne Audouin. La loi sera présentée en Conseil des ministres le 11 avril. Un important dispositif policier déployé hier soir et cette nuit au CHU de Caen. L'alerte a été donnée vers 20h30 après qu'un individu suspect tenant des propos menaçants se soit introduit à l'intérieur de l'hôpital. Un périmètre de sécurité a été mis en place une partie de la nuit. Il a été levé à 4h30. La préfecture n'a pas précisé si l'individu a été retrouvé ou non. À l'hôpital de Marseille de la Timone, en septembre dernier, une mère a dû parcourir plus d'une centaine de mètres dans les couloirs avec le corps de son enfant, son bébé mort dans ses bras. Le nourrisson est mort à cause d'une malformation du diaphragme. La suite, c'est Guillaume Fariol qui nous le raconte.
Deux heures après la mort du bébé, une brancardière arrive dans la chambre de Marine. Et là, stupeur.
En fait, il n'y avait rien pour transporter le corps de ma fille.
Il manque un couffin et quelqu'un pour transférer le corps du bébé jusqu'à la morgue de l'hôpital. Alors Marine et son compagnon prennent les choses en main. Ils décident de transporter eux-mêmes le nouveau-né.
On a marché à pied, donc quasiment 1 kilomètre. Avec ma fille décédée dans les bras, à la vue de tout le monde.
Quand le couple arrive à la morgue, soulagement, sauf que non, en fait, l'enfer n'est pas terminé.
Personne n'est là, donc on a attendu de là à peu près quasiment une heure, au niveau du local poubelle, assis sur un parpaing avec notre fille décédée dans les bras. Et de là, du coup, j'ai dû donner ma fille à quelqu'un que je ne connaissais pas, sans avoir les papiers qui prouvaient que le corps était déposé au dépositoire.
Aujourd'hui, le traumatisme est toujours là pour Marine, surtout que la Timone est secouée par d'autres affaires. La semaine dernière, un bébé a été incinéré à la place d'un autre, insupportable pour la jeune femme.
Quand on voit qu'il se passe encore des choses dans cet hôpital, en fait, on se dit qu'on n'est pas compris et on a du mal du coup à faire notre deuil. On se dit qu'en fait, ils sont foutus de nous.
L'hôpital de la Timone reconnaît un enchaînement de dysfonctionnements. La direction s'est excusée auprès des parents.
8h06, le journal Stéphane Le Neuf. Stéphane, une journée ville morte aujourd'hui à Valentigney dans le Doubs.
C'est dans cette commune qu'est basé le sous-traitant automobile Japy. Japy en redressement judiciaire depuis le mois dernier. 316 emplois menacés, près de 500 sur la 7, si l'on compte les intérimaires. Les sous-traitants automobiles, pour beaucoup, sont en grave difficulté financière alors que PSA et Renault sont en pleine forme. Expliquez-nous tout cela, Michael Thébault.
Des résultats 2017 historiques pour l'un, record pour l'autre, les deux grands constructeurs français ont effectivement rivalisé de superlatifs et leurs principaux équipementiers, eux aussi, Valeo, Faurecia, Magna, Altran ou Plastic Omnium, tous ont pu profiter de cette envolée des ventes de voitures neuves et pour deux raisons. La première est simplement statutaire, les grands équipementiers ont des relations contractuelles directes avec les constructeurs, contrairement aux sous-traitants appelés au coup par coup, et surtout les premiers ont investi massivement et depuis longtemps déjà dans la recherche et le développement, et c'est là leur force, leur valeur ajoutée, car les constructeurs externalisent toujours plus d'éléments. En pleine explosion des véhicules connectés, l'électronique embarquée n'appartient plus à Peugeot ou Renault. La sécurité active, la conduite autonome ont déjà basculé chez les équipementiers. De même pour les process de dépollution ou les plastiques issus de la chimie végétale, abandonnant les sous-traitants à des pièces moins techniques, moins rentables et donc de plus en plus soumises à la concurrence internationale.
On termine cette édition avec le voyage de l'Hermione. Pour la première fois, la célèbre réplique du Trois-Mâts de Lafayette a accosté en Afrique, à Tanger, au Maroc. Et ceci après 2 semaines de navigation dans une mer très, très agitée. La tempête Emma n'a pas épargné le voilier et son équipage. Un équipage, on le rappelle, en grande partie composé d'amateurs. Thibault Lefebvre, lui, était à bord.
Près de 80 marins sur le pont pour faire face à des creux de 10 mètres, à un vent force 8 à 10. Des conditions de mer très éprouvantes pour Théodore et les 53 autres gabiers volontaires. Cet étudiant a navigué moins de 3 semaines dans sa vie.
C'était assez impressionnant à voir. Des fois, on s'est pris des bonnes vagues de côté. Au moment où on était en train de dormir, puis on se retrouve à l'autre bout du bord, on se prend le collègue sur le coin de la tête. Alors moi, je suis venu pour ça, en fait. C'est vraiment l'adrénaline, monter en haut. Puis voilà.
Une insouciance que ne partagent pas les plus anciens. Nicolas travaille depuis 8 ans sur l'Hermione. Il a participé à toutes les navigations. Et c'est la première fois qu'il est témoin d'une alerte à bord, un branle-bas actionné 2 fois. Par le commandant.
C'est tout le monde sur le pont. On va à ce moment-là, dans le noir, se compter et faire l'appel. Les jeunes trouvent ça rigolo. Et quand on prend un peu de bouteille, c'est un moment qu'on n'aime pas parce qu'on a peur qu'à un moment donné, il manque du monde.
Heureusement, aucune perte humaine, mais beaucoup d'avaries, une voile déchirée, des problèmes électriques et une entrée d'eau, notamment au pied du grand mât. Des dommages à réparer avant de reprendre la mer mardi, direction Barcelone.
Voilà, le voyage de l'Hermione à suivre bien sûr sur France Inter et franceinter.fr en partenariat avec l'Organisation mondiale de la francophonie. Et puis un rappel, si vous rêvez de devenir juré du prix du livre Inter, eh bien c'est le moment d'écrire à vos porte-plumes, à vos plumes et à vos mails. Nous sommes dans la dernière ligne droite, la date limite c'est mardi minuit. Et de toute manière, comme il ne va pas faire beau ce week-end, eh bien je vous encourage fortement à vous mettre derrière votre bureau, à prendre votre stylo et à écrire toutes vos motivations. 2 adresses pour se porter candidat, Pierre. Hein. Par mail, d'abord sur le site franceinter.fr, puis par courrier, 1 adresse, Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Pierre, c'est jusqu'à mardi minuit.
C'est noté, c'était le journal de Stéphane Le Neuf.